Il est midi et quart.
RTL Info.
Le journal, Damien Piscopiello.
Bonjour, c'est l'heure de vérité pour Neuchâtel-Xamax FCS. Les Rouges et Noirs reprennent le championnat de Super League de football demain à Thun. Pour faire le point, nous accueillons le président Christian Bangley en direct dans ce journal. Le FC Hauterive retrouvera bientôt son terrain de football. La pose de la pelouse synthétique a commencé mercredi. Aujourd'hui, le Liège a remplacé le caoutchouc sur ses revêtements de dernière génération. Un projet contesté à Concise, la future carrière du Mont Aubert est financièrement nécessaire pour la municipalité. Les opposants réclament un référendum. Le ciel de la région sera ensoleillé malgré le développement de cumulus sur le Jura. Les températures, elles, sont de saison. Faudra s'accrocher pour Neuchâtel-Xamax FCS. Le club de football rouge et noir entame sa deuxième saison en Super League demain à Thun. Après le sauvetage miraculeux en barrage de promotion-relégation, les Neuchâtelois joueront vraisemblablement à nouveau pour le maintien. On retrouve tout de suite Yann Esler qui est en direct de la Maladière avec le président Christian Bangley.
Oui, Christian Bangley, bonjour.
Bonjour.
Après les montagnes russes émotionnelles vécues la saison passée, alors comment vous sentez-vous à l'aube de ce nouvel exercice ?
On se sent très très bien, on va dire que la joie elle était quand même de courte durée parce qu'il a fallu rapidement se remettre au travail. Et puis autant pour le staff, les joueurs, il a fallu remettre le bleu de travail comme on dit.
Cette saison, vous visez à nouveau le maintien ?
Non, j'aimerais mieux, mais on va partir modestement. Tout le monde nous voit déjà comme des relégués. On a eu une bonne discussion ce matin avec les joueurs. Je pense qu'on est mieux armé que l'année passée au niveau de notre organisation aussi dans le club. Et puis, il faudra s'accrocher, mais moi, j'aimerais qu'on soit mieux que d'arriver au dernier match comme on a dû vivre.
Vous avez annoncé la signature de Fred Imweng hier. C'est une bonne nouvelle, mais selon bon nombre d'observateurs, la qualité de l'effectif de Xamax est légèrement inférieure à celui de la fin de saison. On pense notamment au départ d'Ademi, Pouloulou, Serédier. Alors, Xamax est-il encore à la recherche de joueurs ou pour vous, est-ce que l'effectif est complet ?
Alors, je me suis basé sur les deux personnes qui sont mes référents maintenant, c'est-à-dire le directeur sportif et puis M. Magnin. Ils avaient envie d'avoir un numéro 6. On a vu que là, il y avait besoin pour compenser le départ aussi de Serédier. Chose qu'on a fait en allant chercher Freddy Mweng. Et puis, comme dans toute entreprise, on a ses limites dans les budgets. Et pour l'instant, on n'a pas, je dirais honnêtement, c'est pas prévu d'aller chercher un attaquant supplémentaire.
Au niveau du budget, une question est souvent revenue cet été, celle de l'ouverture du capital pour permettre à Xamax de bénéficier de plus de liquidités, pour signer des joueurs. On parle souvent de Jean-Marc Rohrer, ancien président de Serrières. Alors, on en est où ? Est-ce que Xamax va ouvrir son capital cette saison ?
Alors, on a eu, pour l'instant, on ne va pas beaucoup parler là-dessus. On a eu une séance. On doit aussi boucler nos comptes. Les comptes seront bouclés, j'ai appris, d'ici la fin août. Il y aura des réunions qui sont prévues. Le club est tout à fait partant pour ouvrir le capital à action. Mais pour l'instant, on est encore dans le bouclement de la dernière saison. Mais je peux quand même le dire déjà, on a pour la septième année consécutive, Xamax ne sera pas dans les chiffres rouges, mais plutôt dans les chiffres noirs.
Sinon, on a pu apprendre que vous aviez le défi de miser sur les jeunes joueurs, mais beaucoup sont en prêt. C'est doux, c'est Ferry, c'est l'acier, os. Pour la stabilité de l'équipe, de l'effectif, ce n'est pas forcément une vision à long terme. De plus, les joueurs ne rapporteront pas d'argent au club parce qu'ils ne seront jamais transférés. C'est quand même un risque d'avoir tous ces joueurs prêtés.
Mais disons, c'est le rôle des clubs qui n'ont pas les moyens de faire des gros transferts. On le voit que Thun travaille aussi avec des joueurs qu'on leur met en prêt d'eBay. On a aussi vu que cette année, on a énormément amélioré. On allait chercher des joueurs qui connaissaient le championnat suisse. Je pense qu'on doit aussi miser sur la jeunesse, et étant donné qu'on doit faire avec nos moyens un prêt de Léo Seydoux, où on a une bonne entente avec eBay, est tout à fait profitable pour nous. Parce que ça nous permet de mettre aussi le joueur en avant, mais on a aussi des arrangements que si le joueur devient performant, on est aussi gagnant. Et je crois que ça, c'est le rôle des clubs qui n'ont pas les mêmes moyens que les autres clubs en Super League.
Vous, par rapport au rôle de président, vous aviez dit que s'il y avait une promotion en Super League, vous laisseriez votre place. Vous commencez une deuxième saison de Super League à la tête du club. On vous voit beaucoup dans les médias, au bord de la pelouse, avec les joueurs. Alors, petite question piquante, est-ce que vous avez goûté à cette célébrité ?
Non, alors pas du tout, parce que cette célébrité, je peux vous dire que jeudi, quand vous jouez contre Arreau, puis que vous avez toute la terre qui vous en veut parce que les joueurs n'étaient pas à la hauteur, c'est tellement éphémère. Un jour, vous croyez avoir des amis, et puis quand quelque chose ne va plus, ils ne sont plus là, mais le dimanche, ils viennent vous attendre à la sortie du car. On se blinde, on relativise. Je fais ça parce que j'ai aussi du plaisir. Aujourd'hui, j'ai personne qui est venu demander pour reprendre la place de président. Et je vous promets que je la laisse volontiers si quelqu'un vient de valable.
Donc Christian Mingli, président jusqu'à la fin de la saison au moins.
Bien sûr, oui, oui. Je vois mal maintenant changer en cours de saison. On a énormément réorganisé. On a nous approché qu'on n'avait pas de directeur sportif. On a un directeur sportif, on a une commission sportive. On a amélioré les points qu'il y avait améliorés. Pour moi, je pense qu'il faut aussi que les Neuchâtelois pensent que c'est aussi extraordinaire d'avoir dans un canton une Super League. Il ne faudrait pas l'oublier. Ça ne sert à rien de toujours vouloir cracher sur les petits défauts. On n'a peut-être pas tout fait juste l'année passée, mais je pense qu'on s'est quand même maintenu. Ça a peut-être été un miracle, mais le miracle, il ne vient pas comme ça. Et puis, si on compare avec les autres équipes, on a 4-5 points de différence par rapport à des budgets qui sont souvent trois fois le nôtre. Et pour moi, je peux remercier tous ceux qui travaillent dans l'ombre, et puis aussi les joueurs, ce qu'ils ont amené et le staff.
Christian Mingli, président de Neuchâtel Xamax FCS, merci d'avoir été avec nous dans ce journal.
Merci bien.
Merci Yann, vous étiez en direct de la Maladire. Tout Neuchâtel Xamax FCS, c'est demain à 19h et en direct sur RTN avec le commentaire de Yannick Rapon. Remise au vert pour le terrain de football du FC Hauterive. La pose de la pelouse synthétique a commencé mercredi. La nouvelle surface de jeu sera prête à accueillir les joueurs au début du mois d'août. Environ 28 bandes de 4 mètres de large ont été déroulées. Place désormais au collage, puis au marquage. Les spécificités de ce terrain synthétique avec Antonio Diaz, contremaître chez Real Sport, entreprise spécialisée dans la pose de revêtements sportifs.
C'est la dernière génération, question de fibres, puis tapis, la moquette. On posait avant, on posait beaucoup de caoutchouc, puis maintenant on a changé, on met du liège, qui est un produit naturel, qui n'est pas toxique, rien du tout, qui n'a aucun problème avec, qu'on peut le mettre dans notre jardin, puis qu'on n'a pas de soucis, quoi. Il faut dire que ça tourne, le sable, ça tourne autour des 22-23 km carrés. Puis le liège, on tourne autour des 5 et 7 kilos du mètre carré.
Quelle est la durée de vie d'un terrain comme celui-ci?
Alors, un terrain comme celui-ci qui est à Hauterive, c'est une utilisation moyenne d'entre 1000 et 1500 heures par année. Je pense qu'il peut faire entre 12 et 15 ans sans avoir trop de soucis.
Des propos recueillis par Jean-Paul Pitchy. Une vidéo de la pose du terrain synthétique est à retrouver sur rtn.ch. Une carrière qui divise à Concise. Le projet de carrière au Mont-Aubert ne fait pas l'unanimité. Le mois passé, le conseil communal a donné son accord à une certitude, mais un comité référendaire s'est constitué quelques jours plus tard. Il réclame que les citoyens de Concise puissent se prononcer sur l'autorisation donnée par la municipalité. Si pour l'exécutif un éventuel référendum est une bonne chose, il tient à rappeler que ce projet a principalement pour but de soulager les finances de la commune. Patrick Yagui, syndic de Concise.
Moi, je suis arrivé en 2014 et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris la responsabilité de la finance de la commune. Et il faut savoir qu'avant ça, les comptes étaient faux. Donc, on n'avait pas de réelle vision sur l'évolution financière d'un village qui était déjà bien mis à mal depuis pas mal d'années. Et lorsqu'on part sur un budget base zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres chiffres qu'on va faire, le minimum, on se rend bien compte que les premières années, on perd de l'argent. C'est-à-dire qu'on est en excédent de charge. Et on voit que les années suivantes, le scénario se poursuit avec une finalité qui est simple, c'est qu'on avait peu de réserves financières et on est en train de les, chaque année, les égrener, les manger. Donc il arrive bien à un moment donné où le seul moyen qu'on a, c'est de trouver soit une manne financière qui arrive à pallier au fait qu'on n'a pas suffisamment d'impôts par rapport à nos charges fixes qui sont non pas dues au village mais à la politique du canton de Vaud. Alors il reste deux options, soit effectivement augmenter les impôts, soit effectivement trouver une manne financière. Et à part cette manne financière qui n'est pas au bout touchant, je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui.
De leur côté, les référendaires ne sont pas convaincus par les arguments de la municipalité. Ils mettent en doute le besoin pressant d'assainir les finances. Christos Nusli, président du comité référendaire.
Premièrement, les finances communales ne sont pas dramatiques. Il y a un rapport qui est publié chaque année par l'État de Vaud sur l'état des finances communales. Pour l'année 2017, nous avons la liste de toutes les communes vaudoises avec chaque fois une mention à surveiller ou bien à risque. La commune de Concise n'est ni à surveiller ni à risque. Bon, je veux bien croire que les finances risquent de s'aggraver dans le futur, mais pour l'instant, elles ne sont pas dans une situation critique, les finances, premièrement. Deuxièmement, si on dit que la carrière est le seul moyen de renflouer les finances communales, je trouve que c'est quand même un peu aléatoire, parce qu'on peut tout aussi bien soutenir l'inverse. C'est-à-dire que si la carrière diminue la qualité de vie de la région, nous nous retrouverons dans une situation où les gens, ou en tout cas certaines personnes, fuiront Concise, ce qui fera aussi diminuer les impôts. Donc, pour ce qui est des finances, je ne pense pas qu'on puisse être aussi affirmatif.
Des propos recueillis par David Sanchez. La municipalité a validé lundi la demande de référendum. Les référendaires ont jusqu'au 27 août pour récolter 15% des signatures d'électeurs. Refuser l'accès à un cinéma à un homme en fauteuil roulant pour des raisons de sécurité, ce n'est pas le discriminer. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté hier le recours du handicapé genevois, une décision qui pourrait faire jurisprudence et placer dans leur bon droit les organisateurs de festivals et de manifestations qui ne prévoient rien pour les handicapés. C'est la crainte de l'avocate Caroline Hesklein, responsable de l'égalité à inclusion handicap.
C'est un peu le danger et c'est surtout en cela que réside notre déception, c'est-à-dire que dans le recours, nous avions essayé vraiment de convaincre la Cour qu'il ne fallait pas uniquement regarder le problème individuel, uniquement l'accès au cinéma, mais avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire c'est aussi l'accès à des festivals, à l'accès à la poste, à la banque, aux grands magasins, et que partout les personnes en chaise roulante sont confrontées à des discriminations. C'est une atteinte aux droits des personnes handicapées de participer de manière autonome à la vie en société. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées garantit une participation autonome à la vie en société. La possibilité qui s'offre à nous maintenant, c'est que la Suisse va être examinée par le comité onusien des droits des personnes handicapées. Nous allons convaincre ce comité que la législation suisse ne protège pas suffisamment les personnes handicapées contre les discriminations issues de particuliers. Je ne doute pas un seul instant que la Suisse sera critiquée par ce comité et qu'on lui conseillera de changer sa législation.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Un drame familial a fait 4 morts hier soir à Foltern am Albis, dans le canton de Zurich. Un homme de 53 ans a tué son épouse de 51 ans et leurs enfants de 7 et 9 ans avant de se suicider, indique vendredi la police zurichoise.
Il est 12h28.
Sport. C'est la journée des spécialistes du chrono aujourd'hui sur le Tour de France. 13e étape avec un contre-la-montre à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Un tracé de 27 km avec au milieu une cote à 7% de moyenne. Le français Julian Alaphilippe s'élancera en jaune. Mais les cadors de cette grande boucle pourraient sortir de leur boîte avant de s'affronter dans la montagne. Une journée qui sera d'ailleurs historique pour le Tour de France. Petit rappel avec notre confrère de RMC Sport, Arthur Perrault.
19 juillet 1919, à l'occasion de cette 13e étape réservée au contre-la-montre individuel, le Tour de France fête le maillot jaune 100 ans jour pour jour après son apparition sur les épaules d'Eugène Christophe, lui qui avait perdu ce précieux sésame à la veille de l'arrivée finale. Un scénario dont le leader du classement général de cette 106e édition voudrait bien s'acquitter, même s'il aura la chance de porter une tunique collector confectionnée dans la petite usine de Romilly sur Seine. Bref, une journée si particulière qui pourrait bien donner des idées à un coureur complet, puis mais aussi à l'aise quand la route s'élève, le tout dans un cadre paisible à Pau avec une rampe de lancement au bord du ruisseau de Luce, un tracé qui avait réussi au Suisse Karl Litschi le 18 juillet 1939, champion national en titre. Il était régulièrement cité comme l'homme à suivre, une distinction dont n'avait pas besoin Bernard Hinault. C'est d'ailleurs dans la cité paloise qu'il avait remporté sa 3e victoire sur la grande boucle ce jour-là. Il reprit le maillot jaune à Phil Anderson. Reste à savoir si un membre du peloton l'imitera aujourd'hui lors de cet anniversaire, pas comme les autres.
Le premier départ de ce contre-la-montre sera donné à 14h, dernière arrivée prévue juste avant 18h. L'ancien attaquant international français David Trezeguet a été contrôlé en état d'ivresse au volant à Turin, selon les médias italiens. L'ancien joueur se serait montré nerveux, irascible et irrespectueux, refusant d'abord de se soumettre à un alcotest avant de s'y résoudre pour révéler un taux d'alcoolémie estimé entre 1,5 et 1,7 g par litre. Roger Félix est mort aujourd'hui à l'âge de 82 ans. Il avait rejoint la RTS en 1972. Spécialiste de football et d'hippisme, il a couvert les plus grands événements sportifs.
On prend quelques nouvelles du ciel avant de vous laisser passer un après-midi tout en musique sur RTN. temps bien ensoleillé, voilà ce qui nous accompagne encore une fois aujourd'hui, avec quelques voiles d'altitude, quelques cumulus qui vont éclore sur les crêtes, mais en principe pas de risque orageux aujourd'hui, c'est en tout cas ce que nous promet Météo News. Les températures sont agréables, 24 degrés à la Chaux-de-Fonds et au Locle, 26 degrés dans le Val-de-Ruz, 27 dans le Val-de-Travers, 28 degrés à Neuchâtel, 29 à Payerne et à Yverdon. Demain, le temps restera ensoleillé, malgré un ciel un peu voilé et des cumulus qui vont à nouveau se développer. Là, en soirée et dans la nuit, quelques averses et quelques orages sont possibles sur la région. Les températures seront comprises entre 26 et 30 degrés demain après-midi. Pour dimanche, quelques nuages résiduels avec un risque d'averse en début de journée. Et puis on va passer à un temps à nouveau assez ensoleillé. Quelques averses, quelques orages isolés seront à nouveau possibles en fin de journée. Les températures toujours aussi douces, 25 à 30 degrés. Beau et de plus en plus chaud, c'est ce qui nous attend la semaine prochaine.